Summer with Lenny, Emmanuel Franc, France Musique.
Bonjour à tous. Dans l'histoire de Lenny, nous en sommes maintenant aux années 50. Il va nous falloir parcourir les années 50-58 au pas de course, quitte à rebrousser chemin un peu plus tard si nous voulons le suivre. Car en fait, ces années-là, tout va très très vite. Et il écrit ce que l'on peut considérer comme ses premières tentatives d'opéra américain, Trouble in Tahiti et Candide. Il commence à diriger des opéras, mais surtout, il va composer son chef-d'œuvre, West Side Story. Opéra et comédie musicale sont deux sujets qu'il faut prendre le temps d'explorer. Il commence aussi ses fabuleuses émissions pédagogiques à la télévision ces années-là. Mais en 1951, Koussevitzky meurt. Immense chagrin pour Lenny, qui va reprendre les cours de Koussi à l'école d'été de Tanglewood, transmettant à son tour son savoir. Lenny et l'enseignement est un sujet si vaste qu'il vaut mieux s'y aventurer pour une heure entière. Mais avant d'emprunter ses chemins, il faut l'accompagner au New York Philharmonic. L'orchestre a la mesure de sa folle énergie. Complice de ses projets les plus fous, ensemble, ils vont recomposer la mission même d'un orchestre.
Thank you.
Il faut juste préciser avant de se lancer dans la grande aventure du Philharmonique que les œuvres de Leni, composées en 51 et 52, sont comme si lancées dans une course folle. Il jetait un dernier coup d'œil par-dessus son épaule avant de devenir le célèbre Leonard Bernstein. Ses thèmes musicaux reflètent ses chagrins passés. Trouble in Tahiti décrit les scènes de ménage de ses parents et Wonderful Town est un hommage au Greenwich Village des Traînes la Fin, compagnons de nuit blanche gavée de jazz de ses 20 ans.
Step up, step up. Get hep, get hep. Come on down to the village vortex, home of the new jazz rage. Swing, rock and roll to the beat, beat, beat of Speedy Valenti and his crazy cats.
Hey cats, get a load of that square.
Swing, ding the rhythm. Swing, ding the message. The jive is jumping and the music goes round and around. Whoa, goes around and around. Cats, make it solid. Make it groovy. You gotta get your seafood mama. Your favorite dish is fish. It's your favorite dish. Don't be square. Rock right out of that rocking chair. Truck on down and let down your hair. Breathe that barrel house air. The village vortex. Swing, dig the rhythm. Swing, dig the message. The jive is jumping and the music goes round and around. Get full of furiaki saki, get full of the sound of swing. The solid groovy jivey sound of swing.
Swing, dig the rhythm. Swing, dig the message. The jive is jumping and the music goes round and around. Whoa!
Oh!
Cat, make it solid. Cat, make it groovy. Don't be square. Rock right out of that rocking chair. Truck on down and let down your hair. Breathe and barrel house air. You gotta get to the wall, howdy ho.
Whoa, howdy ho.
Get back in.
Get back in.
Skiddy all day.
Skiddy all day.
Heedle, heedle, heedle.
Well, right then, cats.
Well, right then, cats.
Yes.
Baby, I know that old man Moe's kicked the bucket, the old oaken bucket that hung in the well. Well, 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 baby, I know, no, no. Was it red? No, no, no. Was it green? Green, green is the color of my true love's hair. Hair, breath, hairy with the Floyd, Floyd, oi, Floyd, oi, Floyd, oi, Floyd, oi, oi. Oi, ram, toy dwelt in marble halls. Well, that ends well. Well, well, baby, I know, no, no. Was it green? No, no, no. Was it red sails in the sunset calling me, me, me? You're good for nothing. And me, 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 Tarzan, Eugene, swinging in the trees, swinging in the trees, swinging in the trees, swinging, 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 swinging. Floyd away, Floyd away, Floyd away, Floyd away. Hoi!
Il écrit Wonderful Town en 2 mois avec la complicité de l'inséparable duo auteur de Chantons sous la pluie, Betty Comden et Adolph Green. Leur nouvelle œuvre est un peu un Breakfast at Tiffany's avant l'heure. Deux sœurs, débarquant de leur Ohio natal, veulent conquérir New York. Alors que la vie a souri à Leni, rien ne marche pour Ruth et Eileen. Leni écrit un hymne de gratitude à sa propre chance. Si heureux d'être heureux, notre Leni. Enfin, il y a sur les quais. On ne peut que penser à l'arrivée de Sam, le père de Leni, à New York en écoutant la musique qu'il a écrite pour le film d'Elia Kazan en 1954. C'est le producteur du film, Sam Spiegel, qui prend contact avec Lenny. Il est inquiet et veut ajouter quelques grands noms au générique. Lenny refuse tout d'abord. Collaborer avec Elia Kazan, qui a participé à la chasse aux sorcières McCarthyste, impossible. Tout ce que l'Amérique essaie de défendre semblait sur le point d'être écrasé sous la botte du sénateur du Wisconsin, Joseph McCarthy, et de ses acolytes inquisiteurs, résumait-il à l'époque. Le film se situe dans le milieu des dockers du port de New York. Le héros du film, Marlon Brando, ouvrier syndiqué, doit choisir entre trahir ses amis du syndicat ou les dénoncer pour un crime. Il choisit la deuxième solution. Le film évoque l'attitude d'Elia Kazan, communiste dans sa jeunesse, qui a collaboré en 1952 avec la Commission des activités anti-américaines et a été jusqu'à dénoncer ses propres amis. Lenny accepte tout de même de visionner le film, et c'est un coup de foudre musical, mais sans doute aussi pour Marlon Brando. You got a second? One second? I want to show you something. En même temps que je voyais les images, j'entendais la musique. Ça a suffi, et l'atmosphère de talent qui se dégageait de ce film était exactement le genre d'ambiance dans laquelle j'adorais travailler. En fait, il sera déçu. Lenny est trop entier pour écrire pour le cinéma. Il a besoin de se faire entendre.
Even pigeons aren't peaceful.
Well, one thing about them, though, they're very faithful. They get married just like people.
Better.
And they stay that way till one of them dies.
Comment admettre que la magnifique complainte qu'il a écrite pour la tendre scène entre Brando et Eva Marie Saint soit dominée par les dialogues? Comment? En reprenant la musique sous forme de suite pour orchestre dans la grande tradition. La musique de Waterfront est une œuvre à part entière de Bernstein et dirigée par Bernstein.
Thank you.
Un été avec Bernstein, Emmanuel Franc, France Musique.
Ce regard sur le passé a eu lieu juste avant la fameuse année 1957. Quand on dit que la réalité dépasse toujours la fiction, Lenny venait à peine d'écrire le premier acte de West Side Story quand on l'a appelé pour diriger le New York Philharmonic. Que s'est-il passé ? Dimitri Mitropoulos est directeur du New York Philharmonic depuis 1951. Il élargit le répertoire de l'orchestre avec les œuvres de Gustav Mahler ou Un automne à Varsovie de Schoenberg, s'attirant les foudres des musiciens. Mais il y eut pire. En 1957, une campagne de presse dénonce la façon de vivre bien mystérieuse de cet homme ascétique qui ne s'est jamais marié. Pour couper court aux rumeurs d'homosexualité, Mitropoulos s'éloigne un peu et partage la direction de l'orchestre avec Lenny. Et l'année d'après, Lenny prend entièrement la direction de l'orchestre. Quel paradoxe.
Come on, Eileen, up and at 'em. Let's get an early start. We're gonna take this town. Get up, Eileen!
C'est la première fois qu'un chef américain, né en Amérique, qui a étudié en Amérique, est nommé à la direction d'un grand orchestre américain.
First of all, I think we could say that my father became a New Yorker.
Jamie, la fille de Leonard Bernstein.
Avant toute chose, je voudrais vous dire que mon père est devenu un New Yorkais. Il n'était pas né à New York, mais dès qu'il est arrivé à New York, il a reconnu qu'enfin il avait trouvé la seule chose à laquelle il pouvait se mesurer, qui avait le même degré d'énergie que lui. C'était le seul lieu au monde. Cette ville était la seule interlocutrice qui avait un rythme comparable au sien. Il se sentait vraiment chez lui à New York. Donc ça prenait tout son sens qu'il finisse par diriger le New York Philharmonic. C'était la bonne combinaison pour mon père.
Depuis 1943, Lenny n'a jamais cessé de diriger le Philharmonic comme chef invité. Il a fait connaître la musique contemporaine en créant des œuvres de Charles Ives, Poulenc, Messiaen, Copland, Hens, Barber. Et puis en 1956, au Stadium devant 8000 personnes, il a donné un fabuleux concert avec Armstrong. C'était la première fois qu'un musicien noir jouait avec un orchestre philharmonique.
On the night of July 14th, 1956, another of Louis' dreams came true. He came home from his triumphs in Europe and Africa to play with the full symphony orchestra at the distinguished Guggenheim concert in New York's Lewisohn Stadium. Leonard Bernstein conducted the stadium symphony, made up of 88 members of the New York Philharmonic, in an arrangement of St. Louis Blue. Among the 25,000 in the audience was W.C. Handy, 83 and blind, who wrote the jazz classic of them all in a single night.
Mais diriger le New York Philharmonic est un sacré challenge pour Lenny, dont le répertoire n'est à l'origine pas si étendu que ça, puisqu'il s'est tout de même beaucoup consacré au répertoire contemporain. Lui, qui a écrit en 1954 sa sérénade pour violon et orchestre, se donne comme consigne « Maintenant, apprends les grandes œuvres de la littérature et essaie de faire quelque chose de spécial. » Et ce « je ne sais quoi » qui n'appartient qu'à Lenny est déjà inscrit dans la tension du mouvement lent de sa sérénade. Le New York Philharmonic est en difficulté. Il a été façonné par des chefs très différents et n'a plus de son identifiable. Il doit faire face à une forte concurrence avec tous les orchestres des États-Unis qui venaient donner des concerts à New York avec des programmes rodés chez eux et donc parfaits à New York. Lenny sait bien qu'il fera fuir le public s'il ne programme que de la musique contemporaine. Alors, il organise des festivals de musique de Carter, Cage et ses amis et panache ses autres concerts. Le conseil d'administration lui laisse d'ailleurs carte blanche. Il prenait des raclées dans la presse. Il est clair que les journalistes manquaient de fair play à leur égard. Mais quand le New York Philharmonic a pris conscience qu'il était le meilleur orchestre en termes de flexibilité et de capacité à passer d'œuvre en œuvre, quand il en a été fier et a compris ce qu'il était vraiment, alors seulement il a pu devenir le meilleur orchestre du monde.
Il a eu d'excellentes relations avec l'orchestre. Il lui a fait faire un sacré chemin. Ils ont beaucoup changé pendant les années où il était avec eux. Ils ont embauché plus de femmes. Ils ont multiplié les politiques de recrutement. Et il a donné plus de chances aux musiciens afro-américains, aux gens de couleur. Tout ça a pris pas mal de temps et tous ces changements se sont amplifiés après le départ de Lenny. Mais ils ont commencé sous son contrôle.
Summer with Lenny, Emmanuel Franc, France Musique.
Lenny essaye de rafraîchir l'idée même du concert. Il bâtit des programmes thématiques autour de cycles Beethoven, Mahler, Brahms et il commence à enregistrer des intégrales qui font date. Pour Lenny, diriger un orchestre, c'est une histoire d'amour. Pour les musiciens, c'est une découverte. Habitués à des maestros qui ont tout pouvoir, ils n'ont jamais vu un chef d'orchestre se comporter comme Lenny.
There is a kind of closeness that can be developed with members of an orchestra.
Il y a une sorte de proximité qui peut être approfondie avec les membres d'un orchestre. C'est une histoire d'amour.
You and a
dans laquelle vous et un corps respirez ensemble dans une même pulsation qui s'élève et qui sombre en même temps. C'est comme faire l'amour, mais avec 100 personnes.
Un contrebassiste du New York Philharmonic. Lenny aimait tout le monde et il voulait être aimé de tout le monde, mais la musique venait en premier. Il a poussé l'orchestre, mais il n'a jamais, jamais embarrassé quelqu'un ou remis les gens en place. Il était un vrai mensch, un homme à vrai en yiddish. Au début de la répétition, il allait de chaise en chaise, saluant chaque musicien avec l'étreinte obligatoire mais sincère. Un musicien a ainsi calculé que Bernstein a accordé près de 500 000 câlins aux musiciens durant leur collaboration. Une violoncelliste maintenant. D'une certaine manière, vous sentiez que vous jouiez juste pour lui. Il voulait que chaque personne fasse vraiment tout son possible, que nous y mettions toute notre personnalité. Lenny avait la capacité de nous inspirer individuellement et collectivement. Je n'ai pas connu ce genre d'unité à ce niveau émotionnel et collectif avec d'autres chefs. Lenny, pour autant, savait parfaitement porter le frac noir ou blanc à l'américaine. Il entrait en scène en embrassant la bague qui lui venait de Koussevitzky et mettait autoritairement le public en alerte comme un maestro de la vieille école dont il avait hérité l'apparat.
Il est vrai que mon père avait les attributs d'un chef. Il adorait endosser ce rôle et en même temps, tout le monde l'appelait Lenny. Il y avait au fond quelque chose de démocratique dans son approche des relations avec les musiciens. Il devait avoir hérité de la tradition du maestro, mais quand il arrivait au travail, il n'y avait plus aucune prétention ou attitude déplacée.
Lenny a fait trimer l'orchestre pour qu'il se hausse à la première place. C'est parfois à se demander si Lenny ne préférait pas les répétitions au concert d'ailleurs. Ces partitions léguées à l'orchestre prouvent un intense travail de préparation. On y voit sa quête de solutions techniques pour parvenir au dessin qu'il s'était fixé. Bernstein et le New York Philharmonic commencent une intégrale de Sibelius en 1960 et l'achèvent en 1967 pour le centenaire du compositeur. Un travail fou pour une version à fleur de peau où Lenny détaille chaque intention avec une ferveur constante.
Thank you.
Il emmène l'orchestre en tournée à travers le monde, au Japon, au Chili, à Venise et à Londres. Et à chaque fois, il programme des musiques américaines. Ce qui, l'air de rien, est novateur. Avec succès apparemment, puisqu'il dit « Mon grand problème, en fait, c'est d'être autorisé à arrêter les bis pour rentrer dormir. » Parmi leurs tournées, il en est une qui fait date, celle en URSS en 1959. Là aussi, quel paradoxe. Lenny, un temps privé de son passeport pour complicité avec des communistes, est envoyé avec le New York Philharmonic en URSS, quasiment comme un ambassadeur de la musique américaine. Et il joue merveilleusement son rôle. Selon son habitude, surprenant le public russe, Lenny prend la parole avant le concert.
Bonjour Russie. La première chose à dire, c'est que Russes et Américains adorent réciproquement leur musique. Rappelez-vous combien vous autres Russes avez aimé Porgy and Bess de Gershwin. Vous rappelez-vous la magnifique mélodie de Porgy and Bess? Il y a quelque chose dans cette musique de Gershwin d'une beauté tragique, d'une émotion candide et sans détour, qui est aussi typiquement russe qu'américaine. Je voudrais très humblement et très respectueusement souhaiter la bienvenue dans ce public à M. Shostakovich lui-même. Et je voudrais le remercier personnellement et au nom de mon pays pour la merveilleuse musique qu'il nous a donnée.
Thank you.
Une photo de la tournée de 1962 est restée mémorable. Elle montre Boris Pasternak, venu saluer Lenny et Felicia dans la loge après le concert. Cette rencontre a été une épopée. Les Russes lisent le docteur Jivago en douce, puisque le roman n'a pas été publié officiellement en Russie. Or, Pasternak a reçu le prix Nobel en 1958 et n'a pu aller le chercher sous peine de ne plus jamais pouvoir rentrer chez lui. En 62, il vit relégué dans sa datcha en dehors de Moscou. Félicia, grande admiratrice du roman, lui a écrit pour le convier au concert de Lenny. Ainsi, Pasternak arrive au concert à l'immense surprise du public russe qui ne l'a pas vu depuis des années et se met à l'applaudir. Entre 1960 et 1967, Lenny va enregistrer une célèbre intégrale des symphonies de Gustav Mahler avec le New York Philharmonic. Mais je vous rappelle que le compositeur a un lien très particulier avec le Philharmonic, puisque ce dernier dirigeait l'orchestre de 1909 à 1911.
Bien sûr, je ne l'ai jamais entendu moi-même, mais tous ceux qui ont pu l'entendre ont dit qu'il était simplement merveilleux. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il a pu être un excellent chef d'orchestre, mais qu'il n'était pas aussi bon comme compositeur. Évidemment, je ne suis pas du tout d'accord avec ces gens-là. Je pense que la musique de Mahler est formidable, très originale aussi, et vous serez d'accord quand vous l'entendrez. J'admets cependant qu'il y a un problème à être compositeur et chef à la fois. Il semble qu'on n'ait jamais assez de temps et d'énergie pour faire les deux choses en même temps. J'en sais quelque chose puisque j'ai le même problème. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai tant de sympathie pour Mahler.
Quand Lenny parle de Mahler, c'est toujours un peu de lui-même qu'il est aussi question. Nous consacrerons bientôt deux émissions à Lenny et Mahler. Mais restons-en à son histoire d'amour avec le New York Philharmonic pour aujourd'hui. Entre ses débuts en 1943 et sa dernière apparition en 1989, Lenny a dirigé cet orchestre 1247 fois. Lenny en sera le directeur musical pendant 11 ans, jusqu'en 69, et même après son départ, leur lien restera indéfectible.
D'être le directeur du New York Philharmonic était un travail à temps plein. Et il faut toujours se souvenir que diriger n'était qu'une des choses qu'il avait à faire dans la vie. Et l'autre chose primordiale qu'il a faite dans sa vie, c'est de composer. Et il n'arrêtait pas d'aller de l'un à l'autre entre la composition et la direction d'orchestre. Parce qu'il devait composer, qu'il avait toutes ses notes dans sa tête, il fallait qu'il les sorte. Et il ne pouvait juste pas continuer à diriger l'orchestre et à trouver le temps de composer. Alors, il a mis en œuvre différentes solutions, comme d'être le chef d'honneur, ce qui voulait dire qu'il pouvait théoriquement revenir diriger chaque année, mais seulement pour quelques semaines et pas toute la saison, parce que ça lui prenait trop de temps.
Et oui, cher Lenny, toujours le même dilemme. Et rappelez-vous, ces années-là, nous faisons 3 pas en arrière et 4 pas en avant. Pour aller où? Vous le saurez demain. C'était Un été avec Bernstein, une émission d'Emmanuel Franc. Merci à Eric Lancien qui l'a réalisé, à Françoise Monteil qui m'a aidé à la préparer. Merci à Bernard Loupias pour les traductions et à Laurent Lederer pour La Voix de Léni. À la technique, Marie Le Peintre. À demain.